Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue sur le rendez-vous jeu. On est de retour après un petit mois de vacances. J'espère que vous avez passé de bons moments sur la plage ou peut-être même que vous y êtes encore. C'est possible. Si vous êtes de retour, on va vous accompagner pour agrémenter vos moments dans les transports ou en train de faire le ménage ou toutes ces choses qu'on adore faire quand c'est la rentrée. On est encore presque mi-août, donc je ne vais pas trop pousser non plus. Je suis Patrick Béja et vous êtes dans le rendez-vous jeu où on couvre tout ce qui fait l'actualité gaming, PC, console, mobile, événements, industrie, news et jeux auxquels on a joué. Aujourd'hui, on va couvrir notamment ce qui s'est passé dans les conférences de présentation de la Gamescom qui a lieu en ce moment en Allemagne. Et on va parler aussi des petites news de l'été, des jeux auxquels on a joué. Je me suis découvert des amours que je ne soupçonnais pas. Et pour m'accompagner, donc comme je le disais, je suis Patrick Béja. Pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir à nouveau, après quelques mois, après sa première apparition dans l'émission, Hugo de Game Next Door. Je vais y arriver, c'est dur de reprendre. Hein. Comment ça va, Hugo, en forme?
Ça va très bien, ouais, ça va super bien. J'ai pu prendre quelques petits jours de vacances, me poser un petit peu là pendant l'été, donc ça fait du bien. Je recharge un peu les batteries en ce moment, donc voilà, très content de pouvoir revenir dans l'émission. Je crois que c'était il y a quasiment un an d'ailleurs qu'on avait participé, ouais, avec Maxime, que j'embrasse évidemment.
Pour ceux qui ne le savent pas, Hugo et Max sont les deux officiants de la chaîne YouTube Game Next Door, qui est de grande qualité. Je vous encourage à aller la regarder. On en dira un petit peu plus après dans l'émission. Mais attends, rassure-moi, t'es pas en vacances maintenant, là, en ce moment?
Non, là j'ai vraiment repris. T'as repris. Je suis dans cette phase géniale où je peux réfléchir, me projeter un petit peu sur toute l'année qui va arriver. Donc voilà, je suis un peu en brainstorm en ce moment. Voilà.
D'accord, mais je te bouffe pas un morceau de tes vacances.
Non, pas du tout. Non, c'est bien. Là, je prends tout ce qui passe, tu vois, je m'ouvre.
Super, bah écoute, j'espère que tu as été satisfait de ton ouverture à la Gamescom et aux conférences de présentation qui ont eu lieu hier. Il y en avait quatre. C'était entre des conférences et des directs. Il y avait le petit Nintendo Direct Indies de Nintendo, le Inside Xbox, le Stadia Connect et la conférence Gamescom Opening Night Live officiée par Jeff Keighley, qui a fait des infidélités à son Game Awards de décembre pour venir ouvrir la Gamescom. On va y venir, et sans doute le mouvement le plus important de la Gamescom, cette soirée d'ouverture. Mais commençons avec Nintendo, qui a profité de l'événement. On le rappelle, hein, la Gamescom, c'est le plus gros salon de jeux vidéo du monde. Alors, ça dépend de comment ils comptent, hein, mais entre 300, 400 et 500 000 visiteurs chaque année, c'est absolument gigantesque. Pour ceux qui y sont allés, ils se rendent compte à quel point c'est volumineux, même en espace. Il y a 8 halls différents. L'E3, qui est un salon, on va dire, semi-professionnel, et pas uniquement, pas destiné au grand public à la base, il fait 50 000 visiteurs à tout casser. Donc, et même moins, je crois, on est autour de 30 ou 40 000. Donc, c'est vraiment le plus grand salon de jeux vidéo du monde, la Gamescom. Et donc, évidemment, les éditeurs et les développeurs en profitent pour venir présenter des trucs, même si au niveau du calendrier, l'E3 est plus approprié pour commencer à présenter les nouveautés. Donc, souvent, on est un petit peu moins fourni en nouveautés, en grosses annonces à la Gamescom qu'à l'E3. En général, on va parler donc de Nintendo et de leur petit indie showcase. Mais en général, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont estomaqué, qui t'ont plu dans ces présentations, juste en deux mots avant de se lancer?
Malheureusement, je n'ai pas cédé sous l'enthousiasme. Non, ça a été. C'est vrai que, comme tu le dis, à côté de l'E3, qui est vraiment dans le spectacle, le show, on va quand même nous présenter des grosses cartouches, même si, bon, cette année, c'était relatif, parce qu'on est quand même un peu en fin de génération, ou en tout cas en transition, on va dire. C'est vrai que par rapport à ça, la Gamescom est peut-être un peu moins intéressante, mais peut-être que c'est surtout le cas vu de l'extérieur, c'est-à-dire de personnes qui n'y vont pas, puisque sur le salon, il y a quand même beaucoup de jeux qui sont disponibles et des jeux auxquels on va peut-être jouer à la fin de l'année. Donc peut-être que le salon va être peut-être plus intéressant maintenant dans cette partie où la presse va pouvoir nous faire des retours sur des jeux indés qui commencent vraiment à pouvoir se présenter, des versions qui sont vraiment jouables et presque même abouties. Donc ça va peut-être aussi être intéressant à ce niveau-là, quoi.
C'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent, à l'E3 on voit les jeux et à la Gamescom on y joue. Gamescom elle-même a ouvert ses portes aujourd'hui mardi et ça va durer quelques jours, les professionnels, les membres des médias y sont tous et ils sont en train de mettre les mains dessus. Donc à ce niveau-là effectivement c'est plutôt ce qu'on peut attendre de ce salon, donc on va avoir les retours qui vont arriver dans les jours à venir. Bon, bref, continuons avec... on va parler de Nintendo d'abord. C'était un petit direct de 20 minutes, mais qui était assez plein. Rien d'incroyable. Je vais faire un petit résumé de chaque présentation et puis on en discutera un petit peu. Rien de totalement incroyable, hein, mais quelques annonces de jeux arrivés qui arrivent sur la Switch. Ce que j'ai retenu, c'est Risk of Rain 2 qui arrive cet été. Alors, il reste 4 semaines techniquement si on va jusqu'au début de l'automne, le 21 septembre. Donc, devrait pas trop tardé. Super Hot, qui est déjà disponible, un jeu qui est âgé, mais d'ailleurs, je vais avouer un truc qui va m'emplir de honte. J'ai jamais joué à Super Hot. Rendez-vous compte.
Oh, c'est pas dramatique.
Ah bon, pense. D'accord.
Je pense qu'il y a... c'est un jeu, je pense, qui était vraiment intéressant dans sa proposition et l'idée de base était super intéressante. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il est peut-être. On n'en parle pas tant que ça, mais c'est bien qu'il arrive sur Switch pour les personnes qui voudraient le découvrir en portable comme ça. C'est toujours chouette.
Bon, il faudra peut-être que j'y joue sur. Je dois l'avoir sur 3 plateformes différentes. Je vais le racheter sur Switch pour y jouer. Il y a Hotline Miami Collection qui arrive, qui est déjà aussi disponible. Creature in the Well. Le 6 septembre, c'était un jeu intéressant, genre mélange entre pinball, jeu de pas de plateforme, mais vu de dessus et pinball flipper, voilà. Northgard qui arrive aussi, Skater XL qui avait l'air intéressant, et surtout Ori and the Blind Forest, définitive édition qui arrive le 27 septembre sur Switch, un jeu Microsoft évidemment, ça continue leur collaboration. C'est un quand même, malgré tout, encore aujourd'hui, un petit événement de voir un jeu qui était exclusif à un éditeur arriver chez un autre, en l'occurrence de Microsoft et Nintendo. Bon, voilà pour les trucs que j'ai retenus. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un petit peu plus marqué chez Nintendo ou des choses à dire?
Je regarde toujours ces mini directs avec quand même un petit peu d'attention parce que je me dis toujours au détour, peut-être qu'il y a un petit indé, un petit truc qui va me titiller l'œil. Donc là, il y a Eastward, un des premiers jeux qui est publié par Chucklefish. Je ne sais pas s'ils sont aussi développeurs dessus. Et puis, il y a The Tourist aussi, avec une espèce de pixel art isométrique comme ça en 3D. Qui a l'air particulier. Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris ce qu'on va y faire dans ce jeu, mais il a l'air d'avoir un petit côté puzzle qui a l'air intéressant. Donc voilà, ça rajoute en fait des petits jeux que je vais suivre comme ça, sachant que voilà, Hotline Miami, Ori, Super Hot, c'est des jeux que j'ai déjà fait, donc je ne vais pas forcément les retrouver sur Switch. Même si voilà, Hotline Miami, je me dis, ça fait quand même quelques années maintenant qu'ils sont sortis, et peut-être pour une nouvelle génération, ça peut être l'occasion de les découvrir sur Switch, parce que c'est quand même des grands jeux qui ont marqué le début du jeu vidéo indépendant, quoi.
C'est vrai que Hotline Miami, ça évoque toujours quelque chose. Eastward, c'était un petit peu étrange, effectivement. C'est vraiment, on est dans le délire indé. Chucklefish, c'est Wargroove, c'est ça?
Alors oui, ils l'ont édité, effectivement, ouais, ils ont édité Wargroove, et puis oui, c'est aussi un petit peu un de ces labels indés, comme on les appelle, mais je sais qu'ils ont aussi un studio et qui développe des jeux directement, quoi.
D'accord. Et puis oui, The Tourist, moi ce qui m'a marqué, c'était vraiment étrange, une sorte de jeu en isométrique basé sur la physique, qui est une sorte de puzzle platformer, mais moi c'est surtout la musique qui m'a marqué. C'était et pourtant je suis pas très sensible forcément à la musique des jeux vidéo, mais là c'était une sorte de chiptune de boîte, quoi, et ça tapait bien. Moi ça m'avait bien marqué. Ça arrive en novembre, donc assez vite. Donc oui, c'était comme son nom l'indique, hein, un truc pour les indés, et il y avait quelques petites choses à se mettre sous la dent, mais rien d'incroyable. Passons à un plus gros morceau, le Inside Xbox, qui, alors avant même de commencer à parler des quelques jeux, bon il y en avait plusieurs mais seulement quelques-uns qui étaient marquants, je dois dire que le regarder en direct tout du long c'était quand même une souffrance, je ne mâche pas mes mots, oh là là, mais le pire c'est que les Inside Xbox c'est, bon, c'est toujours long, c'est toujours au moins une heure, souvent une heure et demie, et puis ils ont ce style très américain où c'est il y a la foule et tout le monde crie tout le temps et tout le monde applaudit et eux ils sont hyper edgy, ils ont tous soit des piercings soit des jeans déchirés, ils sont ouais on adore la Xbox, on adore les manettes de la Xbox machin, oh là 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 c'est oh, 20 minutes c'est dur mais une heure et demie c'est j'en pouvais plus, comme je le disais sur Twitter, le style américain j'ai vraiment du mal pour ces présentations, le style japonais il est tout aussi, enfin disons qu'il est bizarre aussi avec les Nintendo Direct qui nous ont tous fait rire au début, mais au moins c'est bizarre, mais mignon, c'est sympa, c'est honnête, c'est pas, je sais pas, c'est, enfin bon, bref.
Mais c'est vrai qu'ils ont ce format un peu particulier, ils te montrent un jeu et ensuite ils amènent un développeur, un représentant qui va discuter avec donc un des présentateurs, et c'est vrai qu'il y a ce format où c'est comme tu le dis, c'est très américain, très enthousiaste, donc voilà, ça peut effectivement, nous, moi très, très européen, très français, on peut peut-être avoir un regard un peu critique là-dessus, et c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant, et voilà, qui s'étend en plus sur deux heures, c'est vrai que ça peut être un peu long, il y a des tunnels parfois, quand il y a un ou deux jeux qui nous intéressent pas à la suite, bah voilà, le rythme en souffre un petit peu.
Et c'est surtout que je pense que quand ils font leur Inside Xbox classique, à la limite, c'est plus compréhensible parce que ça s'adresse à un public très ciblé. Là, c'était un petit peu pris dans la vague de la Gamescom, donc ça s'adressait à un public plus général. Donc on s'attendait à quelque chose de plus digeste. Et bon, donc. Enfin bref, au-delà du format, le fond, il y avait quand même quelques petits trucs intéressants. Les choses que j'ai retenues, c'est d'abord ce qui continue à être la force incroyable de Microsoft, c'est-à-dire le Game Pass, avec des ajouts qui sont... Alors, il y a des jeux qui vont arriver, enfin, il y en a plein, je ne vais pas tous les citer, mais Blair Witch arrive très bientôt, le 30 août, et vous savez, c'est ce jeu qui était un petit peu un jeu d'horreur qu'on n'attendait pas, qui avait été présenté à l'E3, eh bien, il sera inclus dans le Game Pass, donc c'est exactement le genre de jeu, il y en a plusieurs, j'en parle souvent, c'est des jeux où on se dit, bon, bah, j'ai pas forcément envie de l'acheter, mais si je le chope dans mon abonnement, je l'essayerai avec plaisir. Je pense que Blair Witch peut rentrer dans cette catégorie. Il y a Kingdom Come Deliverance qui arrive, Bard's Tale 4, Ape Out, Age of Empires Definitive Edition, Stellaris et surtout Devil May Cry 5 qui est, je crois, exclusif Xbox et donc pas sur PC. Age of Empires Definitive Edition est sur PC, bien sûr. Mais Devil May Cry, c'est exactement ce genre de jeu. Je m'étais dit en début d'année, ah, il faut toujours faire des choix. Hein. C'est toujours, tu peux pas jouer à tout. Devil May Cry, j'étais à la limite, je me disais, est-ce que je le prends, je le prends pas? Non, quand même, je sais que je vais pas y jouer longtemps. Donc, j'ai fini par pas le prendre. Et ben, pof, il arrive sur le Game Pass, c'est parfait, il y est déjà. Donc, je vais pouvoir le tester. Et c'est un gros morceau pour le Game Pass, je trouve.
Oui, je suis un petit peu comme toi. Je trouve que c'est vrai qu'alors même si je suis vraiment pareil ou je fais vraiment des choix, j'essaie vraiment de me focaliser sur les jeux qui peuvent m'intéresser et surtout dont je peux percevoir le potentiel bah, pour travailler dessus après sur YouTube ou même avec Fin du Game en podcast. Mais c'est vrai que Devil May Cry, bah, je l'avais aussi un petit peu mis de côté. Et là, c'est vrai de me dire, bon, bah, voilà, peut-être dans le Game Pass, même si je ne suis pas encore abonné, peut-être que je pourrais le prendre. Alors, j'ai vu qu'il a baissé de prix aussi là en ce moment à la Fnac. Je crois qu'il est à 20 balles. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais y jouer, mais voilà, ça peut être intéressant. Et c'est quand même impressionnant quand même. C'est vrai qu'il y a une vraie offre. Moi, je pense que mon moi adolescent, qui n'avait pas forcément énormément de moyens pour jouer, aurait vraiment aimé pouvoir avoir ça, avoir une telle offre de pléthore, de gros jeux quand même, pour m'occuper mes week-ends, quoi.
Si tu t'abonnes, n'oublie pas l'astuce. Si tu t'abonnes au Ultimate, n'oublie pas l'astuce. Tu en as entendu parler de l'astuce de folie?
Non, écoute, non, dis-moi tout.
Alors, je la donne à tous ceux qui m'écoutent. En fait, au moment où tu fais ton premier abonnement au Game Pass Ultimate, ils convertissent tous tes mois Xbox Live Gold et Game Pass Classique en mois Ultimate. C'est-à-dire que si tu as 6 mois de Xbox Live Gold et 3 mois de Game Pass Ultimate, et 3 mois de Game Pass Classique, eh bien tu auras 9 mois de Ultimate en plus de ton abonnement. Ce qui veut dire que si tu achètes 2 ans de Xbox Live Gold avant de t'abonner pour la première fois au Ultimate, eh bien tu as directement 2 ans de Ultimate pour le prix de 2 ans de Live Gold, qui est un tiers du prix, quoi. Donc je pense que c'est encore actif.
C'est bon à savoir. Ah oui, oui. Ça peut intéresser des gens, c'est sûr.
Il y a beaucoup de gens qui suivent cette astuce et qui m'ont envoyé des photos en me montrant « je suis abonné jusqu'en 2022, c'est super cool ».
D'accord. C'est ce que ok, non, je ne savais pas du tout.
À savoir. Donc ça, c'était pour le Game Pass. Il y a eu quelques autres annonces. Bon, du Gears of War, bien sûr, qui arrive très bientôt, hein, le Gears of War 5. Donc ça, on n'aura plus longtemps à attendre. NBA 2K, Ghost Recon Breakpoint, un nouveau mode en PVP en 4 contre 4. Borderlands, qui était absolument partout. J'étais même surpris qu'il ne soit pas aussi chez Nintendo, chez les Indies. On en a bouffé toute la soirée du Borderlands. PUBG arrive en crossplay sur console, donc entre Xbox et PlayStation, on va avoir du crossplay, c'est pas mal. Quelques autres petits trucs, et puis l'autre chose à noter, ils ont fini sur Gears 5 avec un mode horde où chaque personnage a des ultimates, donc des coups spéciaux qui font qu'ils ne sont pas tous pareils maintenant. Voilà. Rien de totalement incroyable. Peut-être Greedfall de Spiders, dont j'attendais pas grand chose. C'est pas forcément mon style de jeu, mais il avait l'air beaucoup plus intéressant que je ne le pensais à l'origine. Et puis, oui, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, toi, dans toute cette liste ?
Comme tu dis, ouais, je suis curieux un petit peu de voir ce que Spiders vont faire avec Greedfall. Alors, je sais pas pourquoi, c'est un moment de la conférence que j'ai un peu loupé. J'étais en train de faire la cuisine en même temps, donc forcément, il y a eu un moment où j'ai dû lancer mes oignons, et c'était peut-être à ce moment-là. Et je sais pas, du coup, j'ai lu que c'était a priori pas un open world ou quelque chose comme ça, ou est-ce que je me suis trompé ?
Alors,
qu'est-ce qu'ils ont donné un peu dessus ? C'est vraiment RPG open world comme on peut l'attendre ? Est-ce que c'est une espèce de simili Witcher 3 ? Est-ce que c'est cette ambition-là ou pas vraiment ?
J'ai pas eu l'impression qu'ils aient dit ou si oui ou non c'était de l'open world. J'ai suivi d'un œil et demi, on va dire. C'était vers la fin de la conférence, je commençais à trépasser. Mais ce qui m'a marqué, c'est que ils ont montré un petit peu plus de gameplay. Ils ont dit on n'est pas forcément dans l'action, on peut être un diplomate. Et on a eu un choix de style de jeu dans ce RPG avec une esthétique. C'est un petit peu l'esthétique qui m'a marqué, qui est, je sais pas, c'est... Ce qui m'a frappé, c'est que c'est différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, même si c'est un univers genre... c'est pas vraiment RPG, c'est pas médiéval, c'est plus tard que ça. C'est exploration du nouveau monde, etc. L'esthétique. Et je sais pas, il y avait quelque chose de différent par rapport à ce qu'on voit dans tous les jeux. Et c'est on va dire, c'est pas vraiment un triple A parce qu'ils ont pas, je crois pas qu'ils aient un énorme budget.
Oui, ouais.
Mais il a l'air quand même de tenir la comparaison avec les triple A. Et ça, je m'y attendais pas. Donc,
oui, c'est un peu ce qui m'avait, tu vois, je pense à A Plague Tale qui est aussi chez Focus Home, mais c'est un peu ce genre de truc. Et c'est vrai que A Plague Tale, je trouve que c'était quand même une vraie réussite pour le studio, pour ses moyens et pour
c'est Asobo.
Voilà, pour les moyens que... c'est ça, pour Asobo. Et je sais qu'il y a Focus derrière, je crois que Greedfall est aussi chez Focus Home. Donc voilà, je suis assez curieux de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent réaliser finalement avec des moyens qu'ils ont et ce qu'ils vont pouvoir faire avec cette licence. Donc ouais. Curieux là-dessus. Ouais.
Les deux de studios français d'ailleurs, dont
tout
on a reçu certains représentants ces derniers mois. Mmh. Alors, quoi d'autre ? Bon, on peut refermer la page Xbox qui était, comme je disais, un petit peu douloureuse. parlons de Stadia. Alors, Stadia, leur Stadia Connect, qui est une sorte de Nintendo Direct, hein, comme tout le monde en fait maintenant. C'était une trentaine, quarantaine de minutes. J'ai entendu beaucoup de gens dire qu'ils étaient déçus qu'il n'y ait pas de grosse annonce. Moi, ce que j'en retiens plutôt, oui, c'est vrai, il n'y avait pas de grosse annonce. Ils ont fait moitié mieux dans la manière de présenter les choses. Ils ont été très clairs sur le point fort de Stadia, qui est on n'a pas besoin d'acheter une console, on achète juste les jeux et on peut jouer sur n'importe quelle machine. Donc ça, c'était un aspect qu'ils ont bien mis en avant et qui était beaucoup plus clair que dans les présentations précédentes. Tout le monde le leur avait reproché, on ne comprenait rien à leur offre. Là, ils ont été clairs sur ce point. Le seul problème, c'est qu'il continue à dire que le lancement, le vrai lancement, est ce novembre. Et pour participer à ce lancement, eh ben, il faut acheter un Founders Pack qui est à 150 euros. Donc, c'est genre, vous n'avez pas besoin d'acheter de console. Mais si vous voulez jouer en novembre, il faut payer 150 euros. Donc, c'est genre, mais de quoi ? Qu'est-ce que quoi ? bon, Stadia. Tout ça se clarifiera quand même beaucoup plus quand il sera lancé en dehors de cette période de fausse bêta en début d'année prochaine, où effectivement on n'aura pas besoin de payer ni Founders Pack ni quoi que ce soit. On pourra juste payer le jeu et commencer à y jouer sur PC, en tout cas sans manette, ou même en connectant une manette filaire. Mais bon, à côté de ça, ils ont présenté une certaine quantité de jeux qui arrivent sur le service, qui ne sont pas des nouveaux jeux, mais qui sont des jeux dont on ne savait pas qu'ils arriveraient sur Stadia. Et il y en a qui sont intéressants. Il y a des jeux Ubisoft, ce qui n'est pas surprenant parce que vous savez que le service d'abonnement d'Ubisoft, Uplay Plus, je crois, sera disponible aussi sur Stadia. Donc les jeux Ubisoft sur Stadia, vous pourrez en bénéficier, entre guillemets, gratuitement en étant abonné à Uplay Plus sans acheter une console ou sans, enfin directement sur n'importe quelle machine, sur votre télé, si vous avez un service Stadia, vous pourrez jouer à Watch Dogs 3 et Gods and Monsters quand ils seront disponibles directement par Stadia. Il y a Cyberpunk 2077, évidemment, qui est un gros morceau, donc qui sera sur Stadia aussi. Orcs Must Die 3, que les amateurs de Orcs Must Die apprécieront. Windjammers 2, Darksiders, Windjammers 2, je le passe rapidement, mais je sais qu'il y a des fans. Darksiders Genesis, qui est un hack and slash, bah pourquoi pas, il en faut un sur la plateforme, peut-être qu'il sera sympa. Et puis, l'autre chose qui m'a marqué, c'est Mortal Kombat 11, qui est un jeu de combat. Et évidemment, quand on parle de jeu de combat, et ben on parle de latence et de précision. Et Warner Bros. Et NetherRealms ont décidé de porter le jeu sur Stadia. Alors, on verra si c'est effectivement suffisamment précis pour y jouer de manière acceptable, même si ça ne sera jamais aussi précis que sur une console en local. Mais c'est, disons que là, la question va être vraiment ouverte et on verra de quoi il en retourne. Samurai Shodown aussi et Farm Simulator 2019, très important. pardon, vas-y, je t'ai interrompu.
Non, c'est vrai que voilà, encore aujourd'hui, c'est difficile, je trouve, de se projeter finalement avec Stadia parce que, comme tu le disais, leur communication déjà au début, elle n'était pas forcément très très claire. On avait du mal un petit peu à comprendre ce qu'ils voulaient faire. Là, déjà, on a bien mieux compris. Donc, c'est vraiment ne pas acheter une console et aussi voilà jouer sur ta tablette. Enfin, quand même, pouvoir jouer à ton Assassin's Creed via ta manette et ta tablette, je pense que ça peut être intéressant pour un certain nombre de personnes. Mais je pense qu'ils avaient commencé avec Doom, tu vois, Doom Eternal, qui était vraiment un jeu aussi, techniquement, c'est important de ne pas avoir trop de latence, vraiment, c'est un fast FPS, donc il faut que ça se passe bien. Et là, ils continuent avec Mortal Kombat 11, essayer de montrer un peu les muscles, de vraiment légitimer cette technologie-là. Donc voilà, assez curieux quand même de voir ce que va devenir Stadia, même si j'arrive pas du tout à me projeter, en fait, je sais pas si on peut saisir, tu vois, l'impact que peut avoir Google finalement dans l'industrie avec ce service-là. Aujourd'hui, on n'en voit que les prémices. Je sais pas du tout comment ça va se passer pour ce truc. Et voilà, c'est difficile de se projeter encore aujourd'hui, je trouve.
C'est vrai, bah on aura la réponse bientôt. Hein. On arrive à la rentrée, c'est novembre. Donc pour les founders, ça va arriver vite. À noter aussi qu'ils ont annoncé The Elder Scrolls Online, donc il y aura aussi un MMO sur Stadia et Borderlands 3 qui était partout, comme je le disais. et enfin, la conférence de Jeff Keighley, Gamescom Opening Night Live, qui au final, je pense, était un bon deal, même s'il n'y a pas eu de jeu incroyable, c'est un bon deal pour la Gamescom, parce que ça a mis à la Gamescom une visibilité assez importante au niveau global, au niveau mondial, et tous les joueurs étaient en train de... Enfin, en auront entendu parler, là où simplement la Gamescom elle-même, c'est pas aussi impactant, je crois, directement. Là, je pense que c'était une bonne stratégie de la Gamescom pour essayer d'être un petit peu plus visible sur la scène internationale. Maintenant, les trucs qui ont été présentés, là encore, c'était un petit peu long, c'était presque 2 heures. Et il y avait aussi... les présentateurs qui venaient présenter leur jeu et sur certains trucs, c'était compliqué. Bon, on a eu Borderlands 3, il y a eu Destiny 2, que moi, j'adore pourtant, mais qui est difficile à présenter quand c'est encore une extension à un public général qui est venu pour voir plein de jeux différents, quand tu leur dis, je disais ça, je sais plus où, mais tu leur dis, alors il y a Eris Morn qui revient, enfin, tout le monde s'en fout, personne sait qui est Eris Morn, à part ceux qui ont joué à Destiny avant, et c'est pas un point, un argument de vente, on va dire. Mais donc il y avait pas mal de choses de ce type-là, des jeux à retenir, je dirais. Comment dire, peut-être Erika, un jeu PlayStation, étonnamment, qui est un jeu en, vous vous souvenez des FMV, si vous êtes assez âgé, un jeu en filmé, en fait, avec des vrais acteurs, où on va choisir des orientations à donner. Ça coûte 10€, c'est sur PlayStation, c'est déjà disponible. Je ne dis pas que je vais me précipiter dessus, mais au moins, il m'a intrigué sur le concept. Les acteurs avaient l'air excellents, et je me dis que ça pourrait peut-être marcher. C'est étrange, mais c'est l'un des seuls jeux qui m'a un petit peu intrigué dans la présentation. Et quoi d'autre? À vrai dire, il y a plein de petites choses, mais il y a The Cycle.
Il y a eu pas mal de redites quand même, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'on s'est tout mangé sur une seule journée, et c'est vrai que de revoir encore Borderlands 3, de revoir encore un certain nombre de jeux,
Gears 5,
2, on en avait déjà parlé, Gears 5, exactement. Donc c'est vrai qu'à la fin de cette journée, on avait l'impression qu'on baignait un petit peu tout le temps dans la même soupe, et même si, comme tu disais, le show était quand même un petit peu plus dynamique, c'était plus un peu plus à ce qu'on peut voir, les Game Awards évidemment, et un peu plus à l'E3, mais voilà, c'est vrai que c'était tout le temps marqué World Premiere, j'avais pas l'impression de voir trop de World Premiere en vérité, mais voilà.
Il y avait Humankind, le Civilization,
oui,
de Sega.
Voilà, ouais.
Que j'ai oublié de mentionner, mais ouais, celui-là, ça pouvait être intéressant. Le fait que Call of Duty Modern Warfare aura du crossplay PC et console, et il y a une alpha pour leur mode 2v2 qui arrive vendredi sur PlayStation. Voilà. Peut-être que, enfin, évidemment, je dis voilà pour tout. Il y avait une Need for Speed Heat qui, je ne comprends pas ce qu'ils font avec Need for Speed. J'ai l'impression qu'ils refont systématiquement le même jeu et que c'est à chaque fois un truc dont tout le monde se fout. Ça doit marcher parce qu'ils continuent à le refaire, mais je...
Oui, très probablement. Ouais.
Peut-être Comanche. Les très, très anciens se souviendront de Comanche. C'est sur quoi? Je crois que j'y jouais sur Amiga, Amiga 500. Et il y a donc, ils font un jeu en multijoueur par équipe en ligne avec des hélicos. C'était très bizarre. Moi, j'avais presque l'impression de voir un FPS, mais bon, ok. Et puis, évidemment, je passe tous ces détails. Je pense qu'on peut passer au gros morceau que je n'ai même pas vraiment mentionné, mais à la fin de la conférence, on a eu le premier gameplay de Death Stranding. Est-ce que tu veux mentionner d'autres jeux avant qu'on passe à Death Stranding ?
Non, je pense que c'était vraiment particulier quand même la structure de cette conférence, parce que j'avais l'impression, tu vois, de voir un espèce de concert, de voir une grosse première partie avec plein d'artistes différents, ouais. Et ensuite à la fin on avait le vrai concert donc de Kojima avec Death Stranding.
L'histoire d'amour entre Jeff Keighley et Hideo Kojima est assez, et je sais pas si, je crois que c'est sincère de la part de Keighley, parce qu'il est tellement pote avec tout le monde, mais genre il s'arrange pour être en bon terme avec tout le monde. Et avec Kojima, vous vous souvenez qu'il y a quelques années, d'ailleurs, ils ont ouvert dans la présentation avec cette partie. Il était au Game Awards, c'était il y a 2 ou 3 ans, et il avait dit malheureusement, Konami, les avocats de Konami ont interdit à Hideo Kojima de venir recevoir de venir présenter les choses à la cérémonie. C'est au moment où les choses se passaient très très mal entre Konami et Kojima. Et je ne sais pas à quel point c'est vraiment sincère, sans doute, hein, je ne veux pas douter de lui, mais en même temps, c'est tellement un bon deal pour lui, parce qu'il est devenu maintenant le go-to guy pour la presse de Kojima, qui est une icône du jeu vidéo, et donc ça lui a beaucoup servi, à lui aussi, à Keighley. Enfin bref, je ne veux pas lui partir du principe qu'il a des intentions...
Les deux se lient, quoi. De toute façon, peut-être. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui, voilà, lie le personnel au professionnel, et bon, c'est aussi beaucoup comme ça dans le milieu du jeu vidéo. Bon, après, voilà, on le sait que c'est du show, on sait que c'est quelqu'un maintenant qui fait vraiment du show, qui est là pour être vraiment un relais de qui est un communicant. Donc bon, c'est pas si étonnant que ça fonctionne pour lui. Bon, tant mieux, quoi.
Oui, c'est sûr, il est complètement dans son rôle et il faut qu'il soit comme ça pour que ce qu'il essaye de faire fonctionne.
Exactement,
ouais, ouais, et ça fonctionne très bien. Je suis très content que ça soit le cas. Hein. Je veux pas qu'on pense que je suis mécontent de son attitude. Mais bref, Death Stranding, on a eu le premier gameplay qui a présenté une mécanique de jeu qui a l'air absolument essentielle, c'est-à-dire uriner quand on se réveille. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est marrant parce que Kojima, il se prend très, très, très au sérieux, mais il a ces petites fulgurances où il fait des clins d'œil à l'audience. Il fait des clins d'œil aux joueurs et j'avoue que ça fonctionne généralement assez bien. On a vu des présentations de différents personnages et on a eu donc ce premier moment de gameplay qui franchement ne disait pas grand chose au-delà du sourire sur la piste sur le champignon. Voilà, il n'y avait pas énormément vraiment de gameplay. Il a dit je veux présenter mon premier gameplay au Tokyo Game Show dans quelques semaines, donc il y aura sans doute plus de gameplay à ce moment. Entre les caractères trailers, le fait que ça soit un open world et ce qu'on a pu voir du gameplay qui consiste à connecter différents points sur la carte en livrant des trucs. On avait vu cette idée de UPS post-apocalyptique. qu'est-ce que tu en as pensé de ces nouvelles images de Death Stranding ?
Je suis autant fasciné que sceptique quand je regarde ce jeu-là, mais je penche quand même plutôt du côté fasciné parce que, bon, clairement, cette espèce d'univers, ses intentions, cette idée de relier les choses, de créer des ponts, on a forcément envie de voir ce qu'il va faire avec ça, parce que, bon, déjà, il a quand même des moyens assez colossaux derrière lui, avec le soutien de Sony, c'est quand même un gros, gros projet, ce jeu. Donc voilà, je reste toujours curieux, malgré si ça va être encore une espèce de grand foutoir à la Kojima, parce que bon, voilà, ce délire avec le pipi, le bébé qu'il faut bercer, enfin qu'il faut un peu cajoler quand on scroute, enfin il y a des trucs assez particuliers.
Qu'il faut bercer avec la manette en fait.
C'est ça. Il faut bien bercer la manette. Petite manette PlayStation 4. Voilà.
Avec les détecteurs de mouvement, c'est intéressant. Et quand tu disais connecté, il a mentionné le fait que ça allait connecter les points sur la carte, mais aussi connecter les joueurs entre eux au niveau multijoueur. C'est-à-dire que certaines choses qu'on fera à certains endroits de la carte vont être influencées ce que vont voir. C'était pas très clair, mais on pourrait penser ce que vont voir ou ce que vont pouvoir faire les gens à cet endroit de la carte, mais les autres joueurs qui jouent en même temps. C'est bon, il y a quelque chose effectivement d'intrigant, quoi.
Oui, vraiment. De toute façon, ça va être un gros morceau quand même quand il va sortir. Je pense qu'il va s'accaparer toute l'attention sur lui. Maintenant, voilà, est-ce que ce sera un gros viandage en règle ou sera une grande réussite? Ça, je pense que c'est impossible de le dire aujourd'hui parce que, voilà, comme tu le disais, on a très peu finalement de détails sur ce gameplay. On sait que, voilà, Kojima, il a tous ses acteurs, tous ses caméos. C'est un petit peu, j'ai l'impression, son ultime jeu fantasme où il a ramené tous ses potes, tous les gens qu'il aime bien.
Donc Jeff Keighley qui est dans le jeu, qui est un personnage dans le jeu.
Qui va-t-on croiser d'autre dans ce jeu? Je suis curieux de savoir, donc on verra tout ça.
Voilà, et c'était donc la fin des présentations pré-Gamescom. La conférence en elle-même a ouvert aujourd'hui et on va certainement avoir plus d'impressions des journalistes qui y sont. Mais pour les présentations, c'était un petit peu tout. Donc, ça conclut notre partie Gamescom. Quelque chose d'autre à ajouter ou on avance sur nos jeux de l'été ?
Bah non, écoute, voilà, on va avancer, voilà, suivre la presse un petit peu, les retours sur tous les jeux auxquels ils pourront voir jouer. Là, j'ai vu déjà ce matin qu'il y avait des gens qui avaient essayé le Haven, donc le prochain de Game Bakers, qui me fait un petit peu de l'œil. Donc voilà, je suis curieux d'avoir les retours sur des jeux comme ça, quoi.
Tout à fait. Bon, ben, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué cet été. Je vais peut-être commencer, si ça t'embête pas.
Ah, vas-y, avec plaisir.
Merci. Je suis chez moi, je fais ce que je veux.
Voilà, c'est ça.
Alors, il y a... Bon, j'ai essayé plein de petits trucs, mais essentiellement, j'ai joué à trois choses. Destiny 2, qui m'a encore remis les griffes dessus. C'est incroyable comme ce jeu, je continue à y jouer depuis des années. Enfin, je dis Destiny 2, mais c'est la série des Destiny. Et j'ai passé énormément de temps sur Destiny 2. Il n'y a pas à dire, c'est un jeu qui me parle, on va dire, et qui est vraiment, vraiment très, très, très bon. Et j'ai hâte d'avoir la prochaine extension qui arrive cet automne, mais je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que vous savez déjà ce qu'est Destiny 2, donc pas besoin de refaire tout un fromage dessus. J'ai joué aussi à Marvel Ultimate Alliance 3. J'ai beaucoup hésité à l'acheter parce que je savais que ça n'allait pas être un très bon jeu, mais en bon fan de comics Marvel et de MCU et tout ça, je me suis dit bah, ça peut quand même faire plaisir, le plaisir d'avoir les personnages, et puis un hack and slash, c'est toujours un bon moment à passer, surtout pendant les vacances. Donc je l'ai acheté, j'ai joué un petit peu. Je dirais pas que j'ai passé un mauvais moment, mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a complètement ébloui, on va dire. Donc voilà, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. J'aurais aimé l'aimer plus et jouer plus. Mais entre-temps, il y a eu, genre une semaine après, les gens... Enfin, je l'ai pas acheté à sa sortie, je l'ai acheté un petit peu après. Et après ça... Fire Emblem Three Houses est sorti et au cœur de l'été, je crois que l'intégralité de ma timeline Twitter, des gens que je lis, des podcasts que j'écoute, tout le monde en parlait. Et je me suis dit, est-ce que j'essaye encore de m'immerger dans un Fire Emblem ou pas ? C'est tout le problème. On disait les jeux sur lesquels on hésite tout à l'heure, où on est à la limite de dire est-ce que je l'achète ou pas, est-ce que je le paye plein pot ou pas. Et souvent, quand je finis par... les jeux sur lesquels on n'hésite pas, on sait qu'on va les aimer a priori, donc on les achète et il n'y a pas de question. Les jeux dont on n'est pas sûr, eh ben, c'est parce que, historiquement, on n'est pas super fan du genre ou on n'aime pas la série. Et donc, souvent, quand on finit par quand même l'acheter pour tester, pour voir, eh ben, on est un petit peu déçu. Et j'avais très, très peur avec Fire Emblem Three Houses. Je ne suis pas du tout client de Fire Emblem. Et ce jeu-là a... on va dire la moitié jeu de stratégie au tour par tour classique japonais traditionnel, et l'autre moitié c'est une sorte de dating sim, simulation d'école à la Persona. Et j'étais pas hyper fan de cette partie dans Persona 5 non plus, j'avais bien aimé dans Persona 4, je sais pas pourquoi dans Persona 5 ça m'a moins happé. Et donc je me disais pas fan de jeu de stratégie, pas fan de jeu d'école. Qu'est-ce que je fais ? Oh, allez, je l'achète quand même. Donc, j'ai fait le truc débile, je l'ai acheté et j'ai passé ces deux ou trois dernières semaines, je dirais 45 heures dessus, sans vraiment pouvoir m'arrêter. Il y a eu un petit moment de creux au milieu, mais j'ai été complètement happé par le jeu. Et je suis hyper, hyper content d'avoir tenté parce que c'est un style de jeu auquel je n'ai jamais vraiment joué.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, s'il faut des jeux de stratégie, il faut remonter genre à Langlisseur sur Saturn. C'était Saturn ? Je ne sais plus si c'était Saturn ou même Super Nintendo.
Oh là, il y a 20 là, ans. C'est trop loin.
C'est
pour
trop,
moi.
Ouais, c'est ça. Mais oui, donc ça faisait des décennies littéralement que je n'avais pas apprécié un jeu comme ça. Et là, du coup, j'ai été complètement happé par le truc. Et j'ai apprécié... En fait, dans ce jeu, il y a juste le bon équilibre entre partie stratégie et partie simulateur de vie sociale à l'école. Parce que dès que tu commences à en avoir un petit peu marre d'une des parties, eh ben, tu bascules dans l'autre et ça te rafraîchit le palais et tu apprécies cette partie. Et le fait, bien sûr, que tu commences à connaître les personnages avec lesquels tu interagis, ça te procure encore plus de plaisir quand tu les emmènes dans une bataille. et quand ils réussissent à passer des certifications pour accéder à différentes classes, parce que tu leur as enseigné toi-même les choses en appuyant sur des petits boutons, hein, c'est pas très compliqué, mais c'est un mélange qui est assez magique, qui n'est pas du tout parfait, loin de là. Moi, j'étais tellement terrifié par la difficulté, parce que bien sûr, Fire Emblem, traditionnellement, jusqu'au titre précédent, je crois, c'est un jeu où on gère toute une série de personnages, et quand l'un d'entre eux meurt dans une bataille, eh ben, il est mort pour de bon, c'est du permadeath. Sauf que dans les derniers épisodes, on a un mode qui est plus... permissif, où on ne les perd pas, mais cette idée qu'on va les perdre est tellement importante dans l'image, l'aura de Fire Emblem, qu'on a l'impression qu'il est incroyablement difficile. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais faire le mode le plus facile, c'est mon premier Fire Emblem, je vais faire facile et casual, donc il y a facile ou difficile et casual ou hardcore. Facile, c'est la difficulté, casual ou hardcore, c'est est-ce que les personnages meurent en permadeath ou pas. Et donc, j'ai fait facile, casual, et j'étais tellement préoccupé par le fait que ça allait être trop difficile que j'ai fait tellement attention à tout. J'ai tout fait dans l'école, à chaque période de pause, j'allais faire absolument tout ce que je pouvais pour maximiser la motivation de mes élèves et leur apprendre absolument tout. Et toutes les batailles, je les faisais avec beaucoup d'attention et je m'assurais que tous avaient autant d'expérience que possible. Enfin, j'ai été tellement méticuleux que, en plus du fait que le mode facile soit vraiment facile, j'ai commencé à être à un plus haut level que nécessaire assez vite. Et du coup, maintenant, je suis une sorte de demi-dieu. Je one-shot absolument tout le monde. Et c'est pas que les batailles ont plus d'intérêt, mais enfin, on n'en est pas loin, quoi. Donc, c'est un défaut de design qui est vraiment important parce que, d'après ce que j'entends, tout le monde a le même problème et même le mode difficile n'est pas si difficile que ça. Il y en a un autre qui va arriver. Alors, ce n'est pas que le jeu, du coup, ne devient pas agréable. J'ai continué à jouer, mais ça, c'est un petit peu dommage au niveau du design. C'est vraiment un problème de game design, pour le coup, qu'on puisse surleveler à ce point. Ce n'est pas normal. C'est qu'il y a quelque chose qui a mal été conçu dans leur jeu. Mais bon, je parle de ce défaut. Au-delà de ça, c'est un petit jeu japonais qui n'est pas beau, qui est vraiment un double A avec les systèmes. Quand on commence à comprendre comment les systèmes s'imbriquent, ça devient limpide. Et c'est amusant de mettre les bonnes briques aux bons endroits. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier dans ce type de jeu. Un plaisir que j'avais jamais vraiment réussi à appréhender et que là, avec celui-là, j'ai réussi à appréhender, peut-être en raison de ce mix entre simulateur social et jeu de stratégie. Et c'est l'une des premières fois que j'apprécie vraiment ce style de jeu. Donc, je suis hyper content. Ça m'a fait, en fait, deux styles de jeu en même temps à découvrir avec un seul. Donc, gros coup de cœur, ce Fire Emblem. J'en suis à 45 heures. Je suis peut-être aux deux tiers. Je pense que je vais le finir. Il y a eu un petit moment de creux à la fin de la première partie. J'ai tellement optimisé, comme je disais, que j'ai passé genre 40 heures là où d'autres personnes passent, je ne sais pas, peut-être 20 heures sur cette première partie. Et même 20 heures, c'est déjà long. Donc, au bout d'un moment, ça commençait à devenir vraiment laborieux. Mais là, ça a repris. Passage à la deuxième partie, c'est assez motivant. Et donc, je vais continuer. Je pense que j'irai au bout. Et c'est une super surprise, vraiment, c'est le genre de truc. Si on m'avait dit quel genre de jeu tu n'aimes pas, j'aurais dit bah ça. Et en fait, ça m'a plu. Donc j'espère que ça veut dire qu'une nouvelle avenue de découverte s'offre à moi et que je vais pouvoir jouer et apprécier, je sais pas moi, Pokémon, tous ces trucs auxquels j'ai jamais joué. Et les apprécier. Tu t'as joué toi à Fire Emblem déjà ou c'est pas
Non, tu vois, c'est marrant parce que bon, moi c'est un jeu qui me fait assez envie parce que je suis assez fan par contre du côté tactique, stratégie tour par tour. Ça, c'est des trucs que j'aime beaucoup. C'est un genre qui me repose en fait, où je mets un peu mon cerveau dans une espèce d'autre fonction et j'aime bien réfléchir comme ça au tour par tour. C'est quelque chose qui me repose. Mais par contre, c'est vrai qu'il y avait tout ce côté discussion sociale et tout. Et comme toi, dans Persona 5, c'est quelque chose qui à la longue m'avait quand même gonflé. Autant j'avais adoré, il y a tellement de choses à adorer dans Persona Persona 5, mais ce côté école, j'avais pas pu finir le jeu parce que voilà, ça durait trop longtemps pour moi. Et du coup, j'avais vraiment cette crainte par rapport à Fire Emblem. Je me disais, bon, ça me fait envie, mais voilà, est-ce que je vais pouvoir investir déjà 50, 60 heures dans un titre comme ça? Je suis pas sûr. Et puis, s'il y a ce côté-là un petit peu qui peut être un peu rébarbatif, je suis pas sûr. Mais voilà, là, juste après t'avoir écouté, bah, je me dis, bon, ça peut peut-être être le bon moment de se lancer dedans. De toute façon, comme tu le dis, c'est un jeu. C'est difficile quand on est sur Internet et qu'on voit absolument tout le monde parler d'un même jeu comme ça. On a l'impression d'être complètement. On n'a pas traversé une espèce de miroir où ils sont tous de l'autre côté. Et oui, c'est vrai que ça fait toujours très envie. Donc voilà, à voir. Il me fait toujours de l'œil. Mais voilà, peut-être que je le prendrai. Du coup, tu m'as un peu plus convaincu de tenter.
Je crois que la manière dont la partie sociale est conçue fonctionne vraiment. Et le fait de découvrir les personnages petit à petit est motivant et j'ai trouvé que ça a mieux fonctionné que dans Persona 5, pour moi en tout cas. Et puis comme je te disais, c'est vrai que maintenant que j'y pense, dans Persona, il y a aussi les moments où on va explorer les donjons qui viennent briser, enfin pas briser, mais ponctuer les parties sociales. Je ne sais pas pourquoi dans Fire Emblem, ça m'a... Peut-être que, en fait, la partie sociale est un peu plus rudimentaire. Elle n'est pas rudimentaire du tout, mais elle est... J'avais l'impression d'être un peu perdu dans Persona 5. Alors que là, on sait ce qu'on doit faire et on va le faire. Et puis c'est terminé. On a quand même pris le plaisir de cet élément du jeu. Donc, pour moi, ça fonctionne mieux cette partie.
Et ben voilà, je pense que je pourrais essayer ça. Je me retenais, tu vois, de l'acheter. mon compte en banque n'était pas foufou et m'a aussi dit c'est bon, il n'y a pas de souci, on ne l'achète pas, il n'y a pas de problème. Donc du coup, mais voilà, on verra pour la suite.
Je suis désolé. Bon, mais alors, sur quoi est-ce que tu as dépensé ton argent du coup cet été, toi?
Alors du coup, j'avais pris, comme je suis parti quelques jours là sur ma Switch, j'avais pris Slay the Spire. Donc c'était là encore, c'est du tour par tour. Donc voilà, c'est aussi des combinaisons de cartes, des trucs comme ça. C'est pas comme Darkest Dungeon, mais disons que moi j'ai trouvé un peu le même plaisir. C'est ce côté, essayer d'expérimenter, d'affiner des stratégies. Et puis il y a ce côté un peu roguelite à l'intérieur qui fait que tu recommences à chaque fois et tu vas pouvoir reconstruire ton deck de cartes pour essayer d'optimiser pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, c'est un bon jeu de vacances, on va dire, entre deux petites sorties à la plage ou le soir tranquillou dans le canapé du Airbnb. C'était très bien. Mais le jeu vraiment là qui a terminé un petit peu mes vacances, c'était Outer Wilds. Alors je sais pas s'il y a déjà des personnes qui sont venues t'en parler dans le rendez-vous jeu. Donc Outer Wilds, qui est un jeu qui est exclusif là pour l'instant sur l'Epic Store. Et donc un jeu d'exploration spatiale.
Et qui est aussi sur le Xbox Game Pass.
Donc, oui, voilà. Alors effectivement, voilà, tu peux jouer sur le Xbox Game Pass, soit sur le Epic Store. Alors je sais pas, est-ce que tu en as déjà parlé dans l'émission?
Alors,
répéter par rapport à d'autres personnes.
Écoute, je suis content que tu en parles. J'espérais, pour être parfaitement honnête, que tu aies apprécié le jeu. À vrai dire, c'est un petit peu un jeu dont je crois personne n'a pas aimé, à part moi. J'y ai joué 2 heures, je crois, et j'ai pas du tout accroché. Alors, je disais depuis des semaines, il faut que je retente un petit peu, mais ça m'a pas accroché. Mais toi, tu représentes l'immense majorité qui a aimé. Donc,
non, parce que moi, j'ai vécu exactement la même chose que toi. C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer il y a 2-3 mois et tout le monde en disait voilà le plus grand bien et j'étais un peu perdu. Je commençais, je me disais effectivement, c'est beau, il y a des trucs qui sont un peu fascinants. Mais le fait que ça parte dans toutes ces directions-là, parce que tu dois explorer toutes ces planètes, tu as plein de choses qui s'affichent dans ton journal. L'idée, en fait, à la fin du jeu, c'est de résoudre un grand mystère. Alors, je vais pas dire ce que c'est, mais voilà, tu dois explorer tout ce petit univers-là, aller sur les différentes planètes pour résoudre plein de petits mystères qui, de fil en aiguille, vont pouvoir te mener à la grande réponse de fin du jeu et que tu résolves, et que la dernière grande énigme du jeu, en fait. Et c'est vrai qu'au début, quand je me suis lancé dans le jeu, y a ce côté où on est un peu submergé par toutes les pistes, ça part un peu dans tous les sens. Et j'étais là, je sais pas trop, ça marchait pas trop. Et je pense que j'y ai joué en fait à un moment où j'étais un peu fatigué, j'avais pas mal de choses en tête sur le travail et du coup j'avais pas la disponibilité, on va dire, pour ce jeu. Et là j'ai pu m'y replonger en fait à tête reposée, j'ai pris chaque problème un par un, je me suis aussi un petit peu aidé d'internet de temps en temps puisque des fois ça c'est bien cool d'avoir une petite béquille comme ça, d'aller se renseigner un petit peu quand il y a quelque chose qui est pas très clair. Et au final, au fur et à mesure, quand tu te mets vraiment dedans et que tu t'impliques et tu arrives à lier tous les éléments de cet univers qui est vraiment, enfin, il y a une espèce de richesse et d'intelligence. C'est vraiment un petit monument qui a été construit en 7 ans, ce jeu. Et à la fin, quand tout commence à s'imbriquer, quand tu commences en fait à renfermer l'entonnoir, puisqu'au début tu ouvres les perspectives, et enfin dans une deuxième partie du jeu, bah tu vas commencer à clore, on va dire, les différents dossiers qui vont t'emmener jusqu'au dossier final. Et à ce moment-là, là ça commence vraiment à être prenant, et tu arrives à lier le tout ensemble. Et là tu te rends compte que t'as vécu et que t'as traversé toute cette aventure. C'est assez incroyable quand même. Donc un jeu, pour l'instant, je l'ai fini, mais j'arrive pas encore à appréhender l'ensemble des choses qui font sa richesse. J'en parlerai probablement à la fois dans le podcast Fin du Game, aussi sur Game Next Door de différentes façons. Mais voilà, vraiment un grand jeu. Et je pense qu'effectivement, ça va être un jeu important. Et je suis vraiment content de lui avoir donné une seconde chance et de me dire bon bah voilà, je me presse pas, je vais essayer de faire les choses comme je les sens. Et puis voilà quoi.
Ah là là, il faut que je réessaye. En plus, c'est pas juste que tu l'as aimé, c'est que t'es passé exactement par la même étape que moi.
Donc, tout à fait, ouais, vraiment. Ouais. J'en discutais donc avec Serve, qui anime le podcast du game.
T'as coupé un peu, tu disais avec
Max. Discutait avec Serve, qui l'a beaucoup, beaucoup aimé. Mm-hmm. Et j'avais vraiment l'impression de passer à côté de quelque chose. Je me disais, bon, bah moi, ça me fait pas grand chose, ce jeu, ça reste un peu plat. Et c'est ça demande une certaine implication, mais encore une fois, je pense que voilà, c'est pas non plus un jeu qui va pouvoir parler à tout le monde et qui va plaire à tout le monde, et c'est pas grave quoi. Mais voilà, si vous êtes dans ce un côté exploration et vraiment de résolution finalement du monde qui nous entoure, qui est vraiment intéressante, donc voilà, je le recommande quand même.
D'accord, très bien. Bah écoute, il va falloir que... Je pense qu'il va être sur la liste sur toutes les listes de meilleurs de jeux de l'année, fin d'année. Vraiment. Et c'est le possible. Genre de jeu qu'on ne peut pas ne pas avoir fait. Enfin bon, on peut...
Au moins avoir essayé.
Il
faut
que je lui donne au moins une deuxième chance, effectivement. Bon, voilà. Je m'y attellerai à un moment quand j'aurai un peu de temps.
Oui, c'est toujours ça le problème, hein, évidemment.
Tout à fait.
C'est déjà pas facile de donner une chance à un jeu, alors une seconde chance en plus, il faut vraiment qu'ils mettent les formes.
C'est ça. Et surtout quand tu passes, 70 heures sur Fire Emblem, qui est aussi un truc qui te manque dans ta culture vidéoludique. Enfin, trop de bons jeux, comme on dit souvent.
Oui, c'est notre problème. Hein.
Bon, parlons un petit peu des choses qui se sont passées cet été. On va passer quelques-unes d'entre elles en revue. Alors d'abord, pendant le tournoi de l'Evo, le tournoi des jeux de combat, Riot Games a confirmé, ce qui était une sorte de secret de polichinelle, qu'il travaillait sur un jeu de combat. C'est le cofondateur de Radiant Entertainment, je crois, Tom Cannon, qui est aussi l'un des fondateurs de l'Evo. Enfin bref, ils avaient fait Rising Thunder. Bref, c'est des trucs que seuls les grands fans de jeux de combat veulent entendre. Mais ce qui est important, c'est que Riot, qui est donc évidemment le développeur de League of Legends et qui n'a pas sorti un autre jeu depuis leur lancement de League of Legends, ça fait, 10 ans, ils ont enfin annoncé qu'ils travaillaient sur un autre jeu, donc un jeu de combat. Et le jeu de combat est un genre qui ne meurt jamais. Et ça sera très intéressant de voir ce que Riot peut faire dans ce domaine. À côté de ça, l'Evo était, comme toujours, un moment hyper intéressant. Kayane, notre e-sportive nationale, notamment sur Soul Calibur, est arrivée au top 8 de l'Evo. Elle fait ça depuis, ça doit faire 15 ans qu'elle fait... Elle était toute petite quand elle a commencé, c'était une sorte d'enfant prodige, et elle a réussi, enfin top 8 c'est quand même pas n'importe quoi. Il y avait des moments assez incroyables comme le comeback de Segoichi sur Dragon Ball FighterZ et son moment avec Sonic Fox. Ils sont des grands rivaux et quand il a réussi à le battre, il a fondu en larmes, et Sonic Fox qui est venu le consoler, c'était adorable. Un combattant sur Tekken 7 qui s'appelle Arslan, enfin un combattant, un joueur qui est sorti de nulle part, il est turc je crois, et il a battu le meilleur joueur du monde, personne n'arrivait à le battre, le match de finale était super impressionnant. Sonic Fox qui a regagné le championnat de Mortal Kombat 11 à Evo, donc cette année, qui est Sonic Fox, donc qui est un joueur, alors il est homo et furry. Curry et il est hyper fier de sa différence et il l'annonce au monde dans un environnement qui est aussi agressif envers les personnes, les femmes, les homosexuels. C'est hyper rafraîchissant d'avoir quelqu'un, justement, un homo qui, il est allé sur Twitter, il a dit « Je suis homo et je suis le meilleur joueur de Mortal Kombat du monde, deal with it !» C'était assez marrant. Donc ça, c'était l'Evo. Il y a eu aussi le championnat du monde de Fortnite, dont le champion s'est fait swatter. Il a 16 ans, il a gagné 3 millions de dollars et il y a des gens qui ont envoyé une équipe de SWAT à sa maison. Enfin bon, bref, c'est lamentable, mais 3 millions de dollars pour le champion du monde. Les autres ont gagné genre presque 1 million. Le sixième a gagné presque 1 million. C'était un gros moment de l'été. Quelque chose à ajouter sur ces beaux moments d'e-sportivité?
Alors moi, j'ai pas trop suivi les Vos, ce que j'avais vu au championnat. Beaucoup de gens qui s'étonnaient des sommes un petit peu astronomiques que ces
Fortnite,
jeunes
ouais.
gens, voilà, 16 ans, qui gagnent ça. Et à chaque fois qu'on a parlé, j'ai toujours dit la même chose, c'est comparer ça, par exemple, aux joueurs de foot. Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, ils ont touché aussi, je sais pas, des Kylian Mbappé qui arrivent à gagner des sommes incroyables. Et c'est pareil, finalement, c'est un élu. Combien d'enfants jouent à Fortnite et rêveraient d'être cette personne? Il y en a un sur des millions. C'est un petit peu comme les joueurs de foot. Et puis, encore une fois, ce qui dicte aussi les prize pool, donc les gains, c'est l'audience, c'est le nombre de gens qui vont pouvoir regarder. Et forcément, Fortnite, qu'est-ce qu'il y a de plus gros que Fortnite aujourd'hui dans le monde? Je sais pas trop. Donc voilà, faut pas forcément s'étonner de ces sommes-là. Même si, bon, d'un point de vue purement philosophique, c'est peut-être indécent. Voilà, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est pas étonnant, quoi.
C'est vrai que on a l'audience qui suit et donc forcément les sommes s'envolent. 3 millions, c'était la somme la plus importante pour un joueur seul dans un championnat d'e-sport. Donc c'est une étape qui est franchie, mais oui, c'est des choses qui ne sont pas si étonnantes que ça. On en parlait dans le rendez-vous tech. Et ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment une question de génération. Il y a des gens qui ne comprennent pas simplement parce qu'ils ne comprennent pas et ce n'est pas leur monde. Et j'espère que moi, je n'arriverai jamais à une situation où il y aura des choses aussi que je ne comprendrai pas. C'est facile de leur dire « Ah, mais c'est… » Et je le fais aussi. « Mais vous ne comprenez pas ?» Oui, ils ne comprennent pas. C'est des choses qu'ils n'ont aucune idée de ce que ça représente. Donc… Bref, ouais. En parlant de sommes astronomiques et de gens qui ne comprennent pas ce que ça représente, Ninja, le plus gros streamer de Twitch sur Fortnite, qui avait 22 millions d'abonnés sur Twitch, a été débauché par Mixer. Mixer, c'est le service de streaming de Microsoft. Ils l'ont racheté il y a 2 ans, je crois. Ils l'ont débauché et du coup, Ninja a arrêté de streamer sur Twitch et il ne switch plus que sur Mixer, exclusivement sur Mixer. Et visiblement, on n'a pas les détails du deal, mais pour plusieurs années, et on parle de sommes qui seraient de l'ordre de 50 millions de dollars payés par Mixer, par Microsoft, pour débaucher Ninja. Ça ne me paraît pas invraisemblable, parce qu'avec 22 millions d'abonnés, il avait pour le faire partir de Twitch, il fallait forcément débourser énormément d'argent, et sur plusieurs années. Donc, c'est un manque à gagner potentiel de revenus qui est important. Donc, je ne sais pas si c'est 50 millions, mais cet ordre d'idée, si c'est 10 ou 20 ou 30, ça ne me surprendrait pas, quoi.
Non, et puis voilà, pour continuer les comparaisons avec le foot, enfin voilà, Ninja, c'est le… Je sais pas, c'est Messi, Ronaldo, tout le monde en une seule personne. C'est le plus gros. Vous pouvez pas avoir plus gros que lui, donc voilà, c'est pas un chiffre qui est si étonnant. Je sais pas du tout combien cette personne elle brasse à l'année en chiffre d'affaires. Donc, mais je pense que ça doit être assez astronomique. Mais voilà, c'est le plus gros. Il y a personne de plus gros que lui, quoi, aujourd'hui. Est-ce que c'est pas une des personnes les plus connues au monde aujourd'hui, en tout cas chez la jeune génération? Je pense que oui, quoi.
Ah c'est sûr, oui, si on parle du monde occidental et des jeunes, on va dire, mais des ados, je pense que c'est Ninja, c'est l'un des plus connus, si ce n'est le plus connu. C'est clairement, entre Fortnite et Ninja, on a un petit peu le gros lot. Puis, on parle de l'argent qu'il brasse. Cette somme et l'argent qu'il aurait récupéré de ses spectateurs sur Twitch, c'est une chose. Mais il y a aussi tout ce qu'il fait à côté. On a vu qu'il est en train d'écrire un livre. Il y a des goodies, évidemment. Enfin, oui, il brasse énormément, énormément d'argent.
C'est une méga star, quoi. C'est vraiment une méga star, comme peut l'être, je sais pas, c'est Beyoncé, mais du jeu vidéo. Quoi. C'est de cet ordre-là, hein, franchement.
Qui aurait pu croire que les méga stars du jeu vidéo seraient des gens qui jouent à des jeux vidéo? Enfin, pour ma génération, c'était les gens qui les faisaient, quoi. Là, c'est des gens qui jouent.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai, c'est étonnant. Ouais.
C'est vu d'ici, c'est normal, mais vu d'il y a 15 ans, on n'avait pas vu venir la chose. Et puis, évidemment, il y a l'autre aspect de ce deal qui est Microsoft qui dépense 50 millions pour avoir la star sur son service. C'est une fois de plus une confirmation du fait que pour les plateformes de contenu, ce qui est important, c'est le contenu. Et donc, il faut des gens qui font du bon contenu et qui sont déjà populaires. Donc, oui, à mon avis, ce n'est pas la fin de cette guerre.
Oui, c'est le début. C'est le premier gros. Ils ont déplacé leur premier pion, qui était plutôt un cavalier. Et puis, ça va y aller. Ça va continuer, ouais, c'est sûr. Hein. De toute façon, voilà, s'ils ont investi une somme comme ça, bon, même si pour Microsoft, j'imagine que c'est pas grand-chose finalement, malgré tout, c'est qu'ils ont, ils ont envie d'être agressifs et de faire bouger le monopole un peu de Twitch actuellement, même si il y a aussi YouTube quand même qui est là, mais ouais.
Ouais, et puis ça veut dire qu'ils investissent beaucoup sur Mixer. Bon, évidemment, ils l'ont acheté, donc c'est pas pour le mettre au placard, encore que on a vu ça arriver.
C'est déjà arrivé.
C'est ça, mais bon, j'imagine que Mixer doit jouer un rôle dans leur prochaine génération de consoles et leur service de streaming, parce que tu ne payes pas 50 millions pour débaucher Ninja sur plusieurs années si tu n'as pas des plans au-delà de ça, quoi. Mais on a déjà vu, je ne sais pas, ça me surprend un peu parce qu'on a déjà vu les consoles actuelles, la génération actuelle, on peut streamer comme on veut, on peut voir des trucs de streaming, je ne sais pas ce qui pourrait changer avec Mixer, mais peut-être qu'ils veulent juste être indépendants de Twitch et qu'ils veulent s'en séparer un petit peu pour avoir leur propre service et être propriétaires des différents éléments qui font leur offre commerciale.
Oui, et puis je pense que le potentiel des services de streaming, je pense qu'encore aujourd'hui, c'est presque embryonnaire. Aujourd'hui, c'est quand même le jeu vidéo qui s'accapare ça. Mais enfin, ça peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Donc, on ne sait pas encore tout ce qui va se passer avec. Et pour eux, c'est qu'une première étape, j'imagine, sur un plan long terme qui est beaucoup plus développé et qui dépasse le jeu vidéo.
Quand parlant de contenu, Sony a racheté Insomniac Games, donc le développeur de Spider-Man sur PlayStation. Donc, ils étaient à coquiner déjà, ce n'est pas surprenant. Insomniac a précisé que Sunset Overdrive était une exclusivité à Microsoft, mais la propriété intellectuelle appartient à Insomniac. Donc, en gros, ils pourraient faire le 2 sur PlayStation s'ils le souhaitaient. Donc voilà, c'est les grandes plateformes qui continuent, comme on disait, hein, le contenu est roi, donc ils continuent à essayer d'avoir de plus en plus de contenu.
Même si c'est vrai qu'il y a plein de gens, c'était un peu la blague de se dire « Ah bon, Sony n'avait pas
coupé un peu. »
On ne savait pas que Sony n'avait pas Insomniac Games, enfin, c'était tellement à coquiner depuis longtemps que c'était presque une non-surprise.
Ouais. Ouais, je pense que ça ne change pas grand-chose dans les bureaux de Insomniac. Ouais.
C'est vrai.
On a vu des rumeurs, enfin des indications selon lesquelles les jeux Super NES arriveraient sur Switch, puisqu'il y aurait une manette sans fil en forme de manette Super NES qui arriverait pour la Nintendo Switch. Bah là, je me dis, j'ai hâte. En même temps, ils vont tellement creuser les fonds de tiroir pour les jeux NES pour leur service Nintendo Switch Online, que oui, à un moment, il faut commencer à pouvoir plonger dans... chercher dans les jeux Super NES parce que le catalogue de la NES n'est pas infini. Je me demande s'il n'y aura pas genre un deuxième tarif, genre Nintendo Switch Online Plus, où on aurait droit aux jeux Super NES. Et je ne sais pas si tu as vu, mais pendant l'été, ils ont fait un test avec le fait de pouvoir jouer à Mario Tennis pendant une semaine. Si on était abonné au Nintendo Switch Online. Et du coup, je me dis, peut-être qu'il y aurait un niveau supérieur où il y aurait chaque mois un jeu auquel on peut jouer pendant un mois. Ils n'en ont pas des tonnes, Nintendo eux-mêmes, donc ils ne peuvent pas non plus faire plein de jeux à la fois. Mais encore qu'ils pourraient faire des deals avec des third parties. Mais je me demande s'ils ne vont pas essayer de faire un truc comme ça, genre un petit peu plus cher et puis vous avez plus de trucs. Possible.
Bah, c'est dans l'air du temps en tout cas, donc ce serait pas étonnant.
Ouais. Microsoft, Nintendo, Sony et plein d'autres ont annoncé qu'ils allaient désormais publier les taux de chance d'avoir des objets dans les lootbox. Alors, ça fait suite à la controverse sur les lootbox, évidemment. Donc, les éditeurs, les fabricants de consoles, en gros, toute l'industrie a décidé que les taux de, enfin, les chances d'avoir des objets rares, épiques, légendaires, etc., allaient être publics désormais. On ne sait pas exactement comment ça va se produire. Est-ce que ça sera dans une liste quelque part ou directement affiché à l'écran quand on voudra acheter un objet ? On ne sait pas du tout, mais ça sera disponible publiquement. C'est quand même un petit peu au moment où les lootbox sont en train de disparaître, mais bon, c'est pas plus mal. Et puis, je voulais dire deux mots sur Modern Warfare, donc le nouveau Call of Duty qui revient à Modern Warfare, le premier de l'ère moderne de Call of Duty, parce que j'en ai entendu parler en des termes qui pourraient être élogieux ou catastrophique. On avait entendu le fait que ça serait, qu'il serait très violent et même inconfortable, difficile à supporter par sa violence. Et de ce que j'en ai entendu, des gens qui en ont testé un petit peu, qui l'ont testé un petit peu, ça va vraiment dépendre du contexte parce que on reproche évidemment aux jeux vidéo de ne pas prendre la guerre et la violence sérieusement, et on joue à la guerre, mais on ne comprend jamais les implications que ça a. Et il semble que Modern Warfare prenne cette approche et des moments difficiles à supporter parce que c'est entre guillemets trop réaliste. Et du coup, ça va être intéressant de voir est-ce qu'ils vont réussir à contextualiser cette expérience de manière à ce que ça soit impactant pour les joueurs, mais que ça les fasse réfléchir ou que ça les mette dans une situation qu'ils vont internaliser, ou est-ce que ça va être fait de manière pas très respectueuse et simplement devenir une sorte de snuff, de montrer de la violence pour de la violence et pour la valeur de choc qui va faire du buzz. Alors, ils n'ont pas le meilleur historique chez les développeurs de Call of Duty, mais là, on a quand même les ex-développeurs de Infinity Ward qui sont venus. Il y a des gens de Naughty Dog qui sont venus aussi dans l'équipe. Peut-être. Moi, je suis étonnamment intrigué et intéressé par ce jeu. Je vais le suivre de plus près que j'aurais pensé.
Ben écoute, pareil. Parce que déjà, j'ai une relation avec le premier Call of Duty 4. Qui était le premier jeu que j'avais acheté avec ma PlayStation 3 et qui a quand même marqué une petite partie de mon parcours de joueur, quoi.
Ah oui, donc c'est un jeu extraordinaire à l'époque.
Oui, vraiment, qui a défini beaucoup de choses dans le AAA et je pense qu'on le passe un peu sous silence parce que voilà, ça reste un jeu de guerre et compagnie et qu'on n'aime pas trop dire du bien de Call of Duty, mais c'est un jeu qui a fait des choses importantes.
Excuse-moi, je t'interromps juste pour dire que ouais. Call of Duty, son image s'éternit après Call of Duty Modern Warfare.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Dans les années qui ont suivi, et donc c'est vrai ça a un petit peu terni Modern Warfare, mais les vrais comme toi et moi qui y ont joué se souviennent à quel point ça a transformé la manière dont on envisageait ce type de jeu en solo et en multijoueur.
Donc, tout à fait. Ouais. Donc voilà, je suis curieux de voir un petit peu leur relecture de ce truc-là. Et puis, bah, comme tu le dis, voilà, à voir. De toute façon, il y a beaucoup de discours qui vont naître de ce jeu, donc on verra ça. Donc, mais voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas suivi un Call of Duty et je pense que celui-là, je vais quand même le regarder avec une certaine attention.
J'espère vraiment qu'ils vont réussir à faire quelque chose de plus profond que juste la violence pour le buzz, quoi. Et bon, on verra. Il sort dans quelques semaines, on verra ça. Allez, rapidement, Blizzard a prévenu les joueurs qu'on risquait d'avoir des queues au lancement de WoW Classic, donc vraiment l'expérience d'origine du lancement de World of Warcraft. sur certains serveurs, les queues pourraient être de 10 000 ou plus de joueurs. Donc, bon, les gens qui voulaient l'expérience originelle de World of Warcraft vont être servis. Hello Games a présenté sa mise à jour 2.0 de No Man's Sky. C'est No Man's Sky Beyond. Enfin, 2.0. Ah merde, j'ai oublié son nom. Le développeur de No Man's Sky.
Ah mince. Ah bah, ça y est.
Mon Dieu. Bon, bah écoutez, je ne me souviens plus du nom. Ah, Sean Murray. Voilà, Sean Murray.
Voilà.
Et qui le considère comme un 2.0, c'est vrai que c'est impressionnant de voir à quel point ils ont continué à travailler sur No Man's Sky. Et déjà, je le disais l'été dernier avec l'update précédente, c'était un petit peu « bon bah ça y est, maintenant vous avez corrigé les défauts qu'il y avait avec No Man's Sky et vous êtes un petit peu racheté ». Ils ont continué à travailler dessus. Là, c'est carrément, enfin, on arrive au jeu que c'était censé être quand il a été lancé. Alors, on peut en rire et dire « Ah bah oui, bah donc ils auraient dû le faire à l'époque », mais No Man's Sky, c'est tellement particulier, c'est une petite équipe qui avait fait quelque chose qui a été sorti de ses proportions. Enfin bref, là, je pense qu'on ne peut qu'admirer la persévérance de Hello Games et de Sean Murray. Bon, en même temps, j'imagine qu'ils en revendent à chaque mise à jour un petit peu, sinon ils auraient peut-être arrêté de travailler dessus, mais bon.
Moi, j'aimerais bien avoir l'histoire complète, tu vois, de ce jeu, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des jeux qui ont des destins comme ça. C'est-à-dire, c'est un truc qui devait être incroyable. Finalement, ça a été une sortie quand même assez compliquée, et puis, il continue d'exister, et aujourd'hui, il y a une espèce de rédemption de No Man's Sky. Et ouais, je serais curieux d'avoir l'histoire de ce truc. Ça pourrait faire un bon épisode, mais bon, je connaissais pas assez le jeu personnellement, mais voilà, j'aimerais bien connaître toute l'histoire de ce truc parce que c'est assez unique quand même ce qui se passe avec ce jeu.
Bah, y a des jeux qui ont une rédemption, particulièrement chez Ubisoft d'ailleurs, les For Honor, les Rainbow Six, mais No Man's Sky, je suis d'accord avec toi, c'est quand même particulier parce qu'il y a eu un tel affect avec la différence peut-être avec ces autres jeux, c'est que il y avait une attente qui était tellement énorme.
C'est ça. Il y avait une promesse incroyable à la base, quoi.
Ouais, c'est et qui était même pas vraiment du fait de Hello Games, même s'ils ont pas dédié les gens qui attendaient certains trucs, mais ça a été monté comme un ballon qui a explosé. Et puis, je sais pas, c'est différent des Destiny et des Rainbow Six et tout ça. À voir si Anthem, le seul truc plus gros que ça en fait, c'est Anthem à quel point il a été monté et descendu. Je serais curieux de voir comment ça va se passer dans les mois à venir pour Anthem aussi, mais ça c'est une autre histoire.
Avec d'ailleurs, je crois que c'est quoi, il y a le directeur créatif ou qui est parti là justement là.
Un des exécutifs.
Un des gros exécutifs de chez
BioWare, et il y en a deux en fait, deux à une semaine d'écart, et l'un d'entre eux travaillait sur Dragon Age 4 si je ne m'abuse. Oui, c'est un peu, enfin en même temps, vu ce qui s'est passé ces derniers temps, peut-être qu'il fallait changer du monde.
Oui, faut peut-être le voir comme ça.
C'est possible. Bon, écoute, t'as coupé un petit peu donc sur ces dernières 10 minutes. C'est pas grave. On a quand même compris ce que tu disais. Mais de toute façon, on arrive à la fin de l'émission, donc c'est le moment de te remercier d'avoir participé et de t'être rendu disponible. Si les auditeurs en veulent un petit peu plus, on parlait de Game Next Door et tu évoquais aussi Fin du Game. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes activités internet, Yann?
Et bah, d'abord, Game Next Door, effectivement, donc la chaîne YouTube où on fait vraiment des chroniques, où on analyse le design et la culture. Là, le dernier épisode qu'on a sorti il y a un peu moins d'un mois, qui parle vraiment des secrets des game designers pour nous aider en jeu, qui vont nous faciliter un peu la vie, ce qu'on appelle par exemple le Coyote Time, le rubber bending, des petites choses comme ça qu'on ne connaît pas vraiment chez le grand public et qui sont en fait implémentées dans beaucoup de jeux et qui sont là pour nous faciliter la vie. Donc on a essayé de décrypter un petit peu tout ça.
J'ai adoré cet épisode. On parlait de ce genre de choses dans l'émission, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait justement, il y a beaucoup chez les joueurs, il y a cette impression que le but d'un designer, c'est de faire en sorte qu'on ne réussisse pas à finir un jeu ou à battre un niveau ou à passer un niveau. Alors que, évidemment, c'est tout le contraire. Le but du designer, c'est de faire quelque chose d'un challenge, mais que vous allez pouvoir surpasser. Et tous ces éléments, il y en avait plein que je connaissais, mais aussi plein d'autres que je ne connaissais pas, que vous évoquez dans l'épisode. Et c'était passionnant de voir toutes les astuces qu'ils utilisent pour vous aider, et parfois de manière consciente et parfois de manière inconsciente. J'ai beaucoup aimé cet épisode-là.
Ouais, super. Donc, il y a ça. Donc, sur Game Next Door, ça, c'est sur YouTube. Et puis, il y a Fin du Game, il y a le podcast là avec toujours Maxime, mon comparse de Game Next Door, et puis bah, Benoît, alias Exerve. Donc voilà, là, c'est un podcast dans lequel on va au bout des jeux. On reprend des jeux qui sont sortis il y a un petit moment. Parfois, c'est 6 mois, parfois, c'est 6 ans. Et on essaie vraiment d'en faire une relecture critique. Donc, c'est vraiment une émission. Quand vous avez fini un jeu, bah, hop, vous pouvez venir nous écouter. Et puis, comme ça, on en parle, on spoil, on critique. Et voilà, ça dure une heure et demie. Et c'est disponible sur toutes les applis de podcast, pas loin du rendez-vous jeu.
Exactement, et d'ailleurs je soutiens Fin du Game sur Patreon, donc je valide également des gens de qualité dans ces émissions, décidément. Super, merci beaucoup Hugo, j'espère que vous prendrez le temps d'aller voir tout ça. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez évidemment suivre le Rendez-vous Tech qui a repris également, où on parle de plein de choses intéressantes, bien sûr. Et si vous voulez venir laisser des commentaires, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr, le site qui héberge mes productions podcastiques francophones. Vous pouvez venir nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode si vous avez des commentaires ou des choses qu'on a ratées, n'hésitez pas, c'est sur frenchspin.fr. Je vous remercie. Ah oui, tiens, une dernière chose. A priori, oui. À partir de maintenant... non, c'est plus pour les auditeurs. A priori, à partir de maintenant, l'émission sortira le jeudi. Donc, on transitionne du mardi au jeudi. Donc, normalement, la semaine prochaine, jeudi, et puis après, ça sera tous les deux jeudis. Je pense qu'on va rester sur ce rythme. Donc, on verra ce qui se passe, mais c'est plus simple à gérer pour moi pour tout un tas de raisons. Donc voilà, s'il n'y a pas le rendez-vous tech à partir de maintenant, pardon, le rendez-vous jeu à partir de maintenant, le lundi ou le mardi, bah, c'est parce que ça sort le jeudi. Voilà. Super, je vous remercie de nous avoir écoutés et on se donne rendez-vous dans une dizaine de jours. Ciao à tous.
Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow-up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at OseaMalibu.com. That's OseaMalibu.com, code GLOW.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinis. I'm Kayla Itzinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.